André Dumbi, au Kasai Oriental. J'ai reçu totalement cette
histoire. Moi, c'est l'île de Koumbati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de l'autre dans cet échange citoyen à parole aux auditeurs. Après 12 ans de mise en application et de pratique du code forestier congolais, la société civile de la République démocratique du Congo plaide pour la possibilité de revisiter ces textes. Elle a exprimé cette demande au ministre de l'Environnement le week-end dernier. Certains parmi eux estiment qu'il faut adapter ces textes à la Constitution et aussi aux exigences de l'heure. Que pensez-vous de ces plaidoyers? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Dieudonné Nyangasa est à la technique, Pesa Julie Bongunda et Piero Elamegi sont à la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 7315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Jean-Marie Kanda, vous êtes assistant technique à la coordination nationale de RNN, réseau ressources naturelles. Vous êtes avec nous et comme notre invité. Bonjour Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie, vous êtes avec nous en ligne.
Oui, je vous suis, je vous dis bonjour.
Bonjour, et est-ce aujourd'hui on peut parler d'une nécessité de vouloir revisiter le code forestier? Pour quelle raison?
Oui, comme vous l'aviez dit, le code date de août 2002 et aujourd'hui il a déjà 14 ans, non, 12 ans. Et dans son évolution, pendant que nous avons ce code, les choses aussi évoluent. Aujourd'hui, vous entendez souvent parler du réchauffement climatique avec le mécanisme d'atténuation RED+. Et vous entendez parler notamment de PLIP, du consentement libre, informé et préalable des communautés locales. Et autant de thèmes qui sont abordés aujourd'hui, mais qui ne sont pas malheureusement pris en compte dans l'actuel code forestier.
Voilà, alors...
Aussi, quand il faut se convaincre la Constitution, vous savez, le code est antérieur à la Constitution. Par rapport à la redevance des superficies, une taxe, une redevance qui doit profiter aux communautés directement, aux communautés locales, le code pose le principe de retenue, de rétrocession, alors que la Constitution pose le problème de la retenue de la source. Donc, la taxe de redevance est aperçue à la province. Comme ça, on aura plus une question de rétrocession, mais c'est la province qui pourra rétrocéder aux entités d'origine de bois. Donc, toutes ces questions, ce sont des questions qui nécessitent d'être harmonisées pour que nous puissions avoir un code qui réponde au consentement des communautés.
Alors, on sait tout de même que les stratégies cadre du processus RED prévoyaient déjà cette réforme. En fait, la réforme autour des différents codes, qu'il s'agisse du code forestier ou encore du code minier, mais qu'est-ce qui traîne ou qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine lanterne en ce qui concerne l'exécution ou encore l'application de cette réforme par rapport au code forestier? Est-ce que c'est la volonté, le manque de la volonté politique ou encore les stratégies ou l'approche utilisée par les acteurs de la société civile qui, en fait, évoluent dans les secteurs, qui n'arrivent pas à faire de plaidoyer pouvoir convaincre, en fait, l'autorité de la place?
Non, je pense que c'est un problème d'approche, pas au niveau de la société civile, mais au niveau des autorités politiques qui, en fait, devraient mettre en place un mécanisme de coordination des réformes. Parce que nous plaidons pour qu'il y ait harmonisation entre les différents codes qui traitent des ressources naturelles. Le code des hydrocarbures, le code minier, le code forestier, enfin le code foncier qui devrait en principe recevoir tout ça. Alors, il a fallu mettre en place un mécanisme de coordination pour que les réformes puissent voir comment mener des réformes et harmoniser certaines choses pour qu'on ne puisse pas arriver à observer des contradictions ou de dispositions contradictoires dans tel ou tel autre code.
Alors aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'avis que le secteur forestier à RDC est susceptible donc de contribuer de manière très significative tant à la diversification qu'au redressement de l'économie nationale. Mais on n'en est pas à ce niveau. Pour quelles raisons aujourd'hui?
Oui, la raison pour moi, c'est les difficultés que nous avons d'application de certaines dispositions du code de ces mesures d'application.
Mmh.
Et aussi, il y a des mesures d'application qu'il faut prendre, mais qui ne sont pas encore là. Il y a des dispositifs, parce que juste aujourd'hui, pour beaucoup de Congolais, lorsqu'on parle d'exploitation forestière, l'idée première qui vient à l'esprit, c'est l'abattage de bois. Alors qu'il n'y a pas que ça. Et aussi, lorsqu'on parle d'abattage de bois, nous voyons seulement l'opérateur privé, ou le secteur privé, l'industriel ou l'exploitant artisanal privé. Alors qu'il y a certaines dispositions du code qui demandent même aux entités territoriales de centraliser, d'aménager des espaces productifs pour faire l'exploitation en régie, par exemple. Mais là, on ne trouve pas encore de mesures d'application qui expliquent comment ça va se faire. Il y a l'exploitation forestière, c'est aussi l'aménagement des espaces à but lucratif, à but touristique ou récréatif. Mais il n'y a pas de mesures qui expliquent comment ça va se faire. Donc, c'est tout ça qui peut être harmonisé, mis à jour, qui permet à ce que, pour qu'on parle de stratégie forestière, on a devant nous une gamme de possibilités avec diversité d'acteurs, et ça permet à ce que, il y a même l'administration publique qui peut mettre en place une institution, que moi je peux appeler entre guillemets, une office d'exploitation de bois par exemple.
Donc,
ce sont des dispositions qui sont dans les codes, mais malheureusement, qui ne disposent pas de mesures d'application qui expliquent comment ça peut se faire effectivement.
Alors, Jean-Marie, donc, si en termes clairs, l'exploitation forestière ne profite pas à la population, c'est ça?
L'exploitation forestière n'a pas profité à la population avant la révision, avant l'adoption de l'actuel code. Et aujourd'hui, nous avons quand même fait un petit pas en avant, parce que nous avons deux dispositions importantes qui permettent aux communautés de bénéficier des retombées de l'exploitation forestière. Du point de vue de l'exploitation, pour tout type d'exploitation, il est nécessaire que l'exploitant signe une petite convention d'exploitation en termes de cahier des charges avec les communautés locales et riveraines de l'espace qui est mis de qui est l'exploitation. Et le deuxième mécanisme, la redevance des superficies concédées. Or, pour le code forestier, c'est une redevance qui revient aux communautés, aux provinces, et le produit de la cette redevance ne peut être affecté à la réalisation des infrastructures d'intérêt communautaire. Aujourd'hui, il est déclaré taxe d'intérêt commun par l'ordonnance qui fixe la démocratie des taxes, l'ordonnance de 23 loi de février 2016. Et là, on a un peu d'inquiétude parce que tout dépend de l'édit qui sera pris au niveau provincial qui pourra affecter cette redevance-là. Et l'édit pourrait même désaffecter et de ne pas respecter les orientations de projet par les codes. C'est là le petit souci que nous avons. Mais le grand problème, comme j'ai dit, par rapport à cette redevance, aucune entité administrative ou territoire décentralisé n'a bénéficié de la rétrocession dans le cadre de cette redevance.
Mmh.
C'est une redevance qui ne devrait pas être englobée dans la redevance collective, administrative, etc. Parce que son l'affectation du revenu du produit de cette redevance est spécifique.
Spécifique.
Mmh. Donc voilà le temps que nous avons, comment nous disons que notre exploitation ne contribue pas encore aux communautés, c'est par rapport à devoir les superficies. Et quand on compte social signé entre certaines communautés et certaines sociétés, oui, il y a quand même, nous faisons quand même des efforts, il y a des sociétés qui se prêtent pour être en ordre avec les communautés par rapport au chronogramme établi, mais il y a encore des sociétés qui se plaignent, les produits sont discutés, les prévisions n'ont pas été réalistes. Voilà. Et quant à l'exploitation artisanale, là il y a encore des problèmes, il n'y a pas encore beaucoup d'opérateurs du secteur artisanal privé qui signent des petites conventions d'exploitation avec les communautés.
Oui, Jean-Marc.
Beaucoup pensent qu'ils partent, ils veulent plus négocier avec les chefs coutumiers qui, eux, cette fois-là, ne s'attendent qu'à recevoir le peu qui reçoit des chefs en termes de droits de l'air droit coutumier.
De propriété. Oui. Alors, ben Jean-Marie, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelle est la position de l'État congolais, du gouvernement? par rapport à ces plaidoyers, par rapport à la révision du code entre l'imminence et la révision du code forestier, selon vos propos.
Oui, aujourd'hui, nous sommes assez contents parce que le gouvernement, avec d'autres partenaires, sont en train de réfléchir pour l'élaboration d'un document de politique forestière. Comme ça, c'est un document qui pourra poser les bases pour un nouveau code forestier, pour conduire la nouvelle réforme. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a certaines automatiques qui peuvent être abordées dans ce nouveau document de politique forestière.
Voilà, on va y revenir sur les innovations. Restez en ligne, 081-890-63-15 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Nous ouvrons les standards avec vous, Omar. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs des Radio Kinshasa.
Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à ces plaidoyers de la société civile qui, au fait, plaident pour la possibilité de révisiter le code forestier 12 ans après sa mise à l'application?
Merci beaucoup, JR. Je pense que ce plaidoyer est fondé à la mesure où, dans un état de droit, il y a ce qu'on appelle le principe de la constitutionnalité de loi. Le principe veut que toute loi soit conforme à la constitution qui est la loi mère, la loi suprême. Deuxièmement, il faudra rappeler à titre d'approche diachronique que les codes de 2002 portant code forestier a été élaboré sous l'égide de la constitution de 97, élaborée par Moussa Laurent Désiré Kabila, alors qu'aujourd'hui on est régi par la constitution de 2006. Donc ces deux raisons font que l'ère plaidoyer soit fondée. Et là où je les reproche, c'est que ce sont limités à dire qu'il faut réviser, mais n'ont pas dit quels sont les articles qui doivent être revisités. Parce que la loi, dans son ensemble, n'a pas de problème. Il y a certains articles qui énervent les dispositions constitutionnelles, et ce sont ceux-là qui doivent être revisités. Je prends le cas de l'article 5 et l'article 15 du Code forestier, qui parlent encore du décret du président de la République. Alors qu'actuellement, avec l'article 79, alinéa 3 de la Constitution de 2006, on parle de l'ordonnance. Donc, ça, ça doit être revisité. Et l'article le plus important qui doit être revisité, c'est aussi l'article 6 du Code forestier, qui remet en cause l'autonomie accordée aux provinces. Avant 2006, il n'y avait pas vraiment une décentralisation dans notre pays. Mais aujourd'hui, avec la Constitution de 2006, on a garanti aux provinces une autonomie tant politique qu'administrative. Mais si vous lisez l'article 6, on dit que le province élabore des projets forestiers, mais sous l'approbation du ministre. Alors que si vous lisez l'article 204, point 20 de l'actuelle constitution, l'élaboration des programmes forestiers provinciaux relève de la compétence exclusive des provinces, ce qui inclut l'organisation, la gestion, les contrôles, même la fixation des prix. Moi, je pense que ce sont les articles qui doivent être revisités, car ils énervent la loi suprême. Et aussi, comme l'a dit l'invité, le code actuel manque des dispositions pertinentes portant protection de l'environnement. Vous savez, l'expansion de la forêt implique également la protection de l'environnement. Mais si vous lisez cette loi, vous n'allez pas trouver des dispositions coercitives qui tendent à protéger l'environnement. Par rapport aux effets actuels, nous avons les réchauffements climatiques, les déboisements visibles, et que sais-je. Voilà mon avis, j'ai les raisons principales qui fondent ces plaidoyers. Mais parlons du code lui-même.
Voilà, désolé, on a des soucis avec la ligne de Omar. Je crois que la réalisation va relancer Omar, comme ça, ça va lui permettre de d'arriver au bout de ses idées. Mais nous notons qu'il y a deux raisons qui militent donc en faveur de la révision de ces textes. Pour Omar, il faudrait que tout puisse tendre vers la constitutionnalité de toute loi. Et aussi, deuxièmement, donc le code de 2002 qui a été élaboré sous l'égide de la constitution des 97 et doit normalement subir ces modifications. Et il a évoqué quelques articles, notamment l'article 5, l'article 15, où qui parle au fait de décret du chef de l'État, en contrario avec la constitution qui évoque l'ordonnance loi. Et aussi l'absence de dispositions pertinentes de la protection de l'environnement pousse quand même qu'on puisse penser déjà à cette révision du code forestier qui totalise aujourd'hui donc après 29 août 2002, donc 12 ans. Merci beaucoup à Maître Omar, je crois que la réalisation pourrait nous aider à vous récupérer pour que vous arriviez au bout de vos idées. On va prendre plutôt Maître Mavinga qui est à Matadi. Bonjour Maître.
Bonjour JR et bonjour à tous les auteurs de la radio Camille.
Vous avez la parole. Vous avez suivi Maître Omar qui a évoqué deux raisons qui en fait, militent en faveur de la révision de ces textes de loi, régulant donc le secteur de l'environnement. Alors donc, vous avez votre point de vue. Quelle d'abord lecture faites-vous par rapport au plaidoyer de la société civile qui, en fait, demande à l'État de pouvoir en fait accorder le bénéfice de l'urgence à cette révision du code forestier.
Merci, hier, j'ai pas depuis tout ce que je vous ai raconté. En fait, moi je pense que le plaidoyer des autorités civiles est bon. Et malheureusement, moi je me dis dans notre pays, parfois nous savons prendre des choses en tenir compte des différents contextes. Comme Omar a dit, c'est vraiment bien de prendre des plaidoyers, mais il faut les prendre en tenant compte aussi des différentes réalités sous ces notre pays. Parce qu'il ne faut pas seulement dire qu'il faut qu'on révisite les codes forestiers, mais il faudrait encore avancer des raisons qui doivent faire à ce que les codes soient révisités. Parce que dans notre pays, apparemment, les lois sont devenues tellement moins rigides qu'on peut les balayer à tout bout de vent. Chacun peut prendre l'initiative de modifier une loi comme il veut. Il faut que nous respections nos lois. Moi, je pense qu'avant de modifier une loi, il faut d'abord premièrement tenir compte des faiblesses de cette loi-là. Il faut d'abord qu'on relève les faiblesses dans cette loi, dans les codes, et demander quelles sont les faiblesses qui blessent ou qui choquent par rapport à la protection de l'environnement ou des forêts d'herbes des montagnes du Congo. Deuxièmement, par rapport à l'élaboration.
Maître Mavinga, pour vous faire une idée, il y a notre invité, et qui a été relayé d'ailleurs par Maître Omar, lorsqu'on évoque l'absence des dispositions pertinentes relatives à la protection de l'environnement, c'est déjà là une faiblesse.
Mais c'est hier. Mais quand on évoque cet aspect-là, mais il faut lire tout le code. Si nous prenons l'article 7 du code. Du code qui dit les forêts constituent la propriété des États, leur exploitation et leur utilisation par les personnes physiques ou morales, des droits privés ou des droits privés, sont régis par les dispositions de la présente loi et des mesures d'exécution. Donc, il ne faut pas seulement prendre les codes régulièrement, il faut aussi tenir compte des mesures d'exécution. Lorsqu'il y a une loi qui est prise, il ne faut pas seulement se limiter à la loi, il faut prendre des mesures d'exécution après. Mais nous, on veut corriger, on veut révisiter les codes. Est-ce qu'il y avait des mesures d'exécution qui avaient été prises pour accompagner les codes? Parce que le code avait prévu, dans certaines mesures, qu'on puisse prendre des mesures d'exécution qui doivent accompagner l'application du code. Sinon, on commencera à révisiter le code sans pourtant qu'il y ait des mesures d'exécution. Je suis d'accord avec l'invité aussi, mon confrère Omar, mais qu'est-ce qui a été prévu quand le code avait été voté? D'abord, le code devait être voté en tenant compte des réalités. On devait prendre des experts. Nous, dans notre pays, parfois, on prend faute de loi, mais 100% qu'on s'intéresse aux experts qui devaient nous donner les matières. Et c'est pourquoi, après, on se rend compte que le code ne s'adapte plus. Moi, je pense que le code est bien, parce que le code, en ce qui est, a prévu des mesures d'exécution. C'est au ministère de l'Environnement de prendre des initiatives en plus de trouver des mesures d'exécution. Si on commence à modifier le code, on peut modifier le code, ce qui est vrai. Mais est-ce que le code qui sera modifié sera-t-il suivi des mesures d'exécution? Le code n'a pas de problème. Si nous disons qu'il faut adapter le code par rapport à la constitution de l'EGR. Mais l'article, le code est conforme à l'article 9 de la constitution qui prévoit à ce que les forêts soient gérées par l'État.
C'est
ce qui était prévu par le code. Au fait, le code est venu, est antérieur à la constitution. Mais si ce code-là ne présente pas les dispositions pertinentes qui violent la constitution, pourquoi doit-on modifier le code? Moi, je pense qu'il faut que nous soyons responsables. Le code est là. Mais il faut prendre des mesures d'exécution qui doivent accompagner les causes.
Mais dans les cas où on se retrouve avec deux lois, en fait, je sais que la loi fondamentale, c'est la loi des lois, mais je crois que ça ne peut pas aussi, disons, on ne doit pas vivre des dispositions contradictoires entre la loi fondamentale et le loi cadre.
Je suis d'accord avec vous, mais je prends l'exemple que M. Omar a pris. En fait, M. Omar a invoqué par rapport aux mesures que le président peut prendre. Il parle du décret, il parle de l'ordonnance en face du décret. Là, ça n'a pas un grand impact par rapport aux codes. Mais quand, en suivant le plaidoyer dit.
La société civile.
Ça ne tient pas compte des actes administratifs ou des actes réglementaires ou des actes économiques, mais ça tient compte même du socle fondamental, de la protection de l'environnement, de la gestion des forêts. Là, ce n'est pas contradictoire à la Constitution. Je serais d'accord avec M. Omar par rapport vraiment aux actes qui ont été pris, mais par rapport au contenu, à la gestion des forêts, par rapport à la protection des forêts, nous avons une commission nationale des aides de plus.
Tout à fait.
Moi, je suis d'accord avec Maître Omar, il faudra qu'on modifie les articles qui sont liés par rapport aux actes du président de la République. On doit modifier l'ordonnance.
Le décret, l'ordonnance.
Mais par rapport au contenu, par rapport à la protection de l'environnement, par rapport à la prise en compte des réalités sociales et de la population. Je prends l'exemple que le Vital donné. On parle dans le code de la réhabilitation et non de la
rétention.
Est-ce que la constitution actuelle respecte-t-elle la
rétention?
La constitution parle de la rétention, mais la pratique de la rétention.
Déjà, là, c'est en contrario avec certaines provinces. Nous avons même reçu le gouverneur du Nord Kivu, porte-parole de gouverneur, tant à ces problèmes. Et c'était un débat autour de la gestion de nos provinces actuellement. Il a évoqué cet aspect des choses parce que c'est comme si les langages, les violons ne s'accordent pas entre les provinces et les gouvernements centrales. C'est encore un autre débat à suivre dans les jours à venir, toujours dans cette émission Parole aux auditeurs. Maître Mavinga, à moins que vous ayez un autre élément à ajouter. Sinon,
Vous terminez, Maître Chia.
Oui.
Vous terminez, Maître Chia. Je voulais simplement interpeller la conscience des Congolais. C'est que les lois, nous devons respecter les lois. S'il faut les modifier, il faut les modifier objectivement. Il ne faut pas que nous venions seulement pour modifier comme nous voulons. Moi, je pense que l'école est bien, mais seulement on doit tenir compte des différents points de vue qui tiennent compte peut-être qui ne tiennent pas compte des besoins fondamentaux du peuple patriote. Ce qui est plus important, c'est qu'il faut avoir des mesures qui accompagnent le cours
voilà.
Tel qu'il a été pris. Et c'est là que j'ai terminé mon propos.
Merci beaucoup, Maître Mavinga, d'avoir appelé de Matadi dans le Bas-Congo. Nous profitons d'ailleurs pour faire un petit coucou à tous ceux qui nous suivent à Matadi et aussi dans les villages avoisinants, donc la ville portuaire de Matadi. Jérôme, vous êtes à Bounia. Bonjour, Jérôme. Jérôme, vous êtes avec nous? Voilà, c'est dommage, Jérôme n'est pas en ligne, il est temps pour nous de lire quelques messages qui nous sont parvenus. Il y a Maître Patrick et Dieu merci Oudongo de Bounia qui dit ceci, nous pensons beaucoup à la révision de la loi au Congo, mais la société civile a extrêmement raison de se plaindre. Alors il faut qu'il possède une raison valable pour la modification de cette loi, pour l'évolution des choses dans ce secteur. Anto Agoula de Kisangani, j'ai toujours été d'accord avec la société civile, que cette loi soit révisitée. Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi, révisée, oui, mais la société civile doit donner des raisons convaincantes pour cette révision. Nous les avons évoquées tout à l'heure, et Maître Omar est revenu sur ça, et notre invité aussi, Jean Chemou, vous êtes à Lubumbashi, c'est tout à fait normal que la société civile prenne cette initiative, mais elle doit cependant argumenter, expliquer, donner les raisons de la non-conformité de cette loi à la Constitution, mais également les avantages. Jean-Marie, vous êtes en ligne, vous êtes notre invité. Vous venez de suivre les auditeurs, il y a Omar, Maître Mavinga, et qui en fait ont évoqué des raisons pour appuyer en fait la position de la société civile, la constitutionnalité de toutes les lois et aussi quelques dispositions pertinentes de l'absence de quelques dispositions pertinentes de la protection de l'environnement. Alors comment vous réagissez par rapport à cette lecture faite par les auditeurs?
Oui, personnellement, nous portons attention à tout ce qui vient d'être dit. Et nous devons tenir compte de tout ça dans notre démarche. Mais ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est nous sommes en train de lire le code en diagonale avec toutes les mesures d'application qui ont été prises et en ayant en face aussi les autres codes qui ont été développés et même qui sont aujourd'hui en pleine de réforme pour voir quelles sont entre les codes et les mesures d'application, quelles sont les dispositions contradictoires qu'on observe. Parce qu'il y a des arrêtés, il y a des décrets qui contredisent dans certains points le code. Et il y a des choses pour lesquelles, dans le code, il est plus en contradiction avec les autres codes. C'est un travail que nous sommes en train de faire, et dans notre méthodologie, avant d'arriver à publier tout ça, nous consultons tous les acteurs en province. Et du coup, nous avons fait alors tenir compte des observations qui sont faites partie par ça, les contributions des uns et des autres. Et là, nous pourrons présenter un document bien argumenté qu'on présenterait à l'autorité compétente. Donc, voilà. Je suis d'accord avec le point de vue des amis, c'est juste une idée bien avancée.
Oui, il y a un autre qui a dit il faut d'abord élever les faiblesses qui sont dans ces codes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une idée encore très claire sur les faiblesses?
Je ne saurais pas ici être vraiment détaillé pour dire le point des articles, parce que c'est un document, un travail qui est encore en élaboration. Mais parmi les choses que nous avons dit, il y a ce que David, le collègue, le maître a évoqué là. Là, aujourd'hui, par exemple, pour le poids de la prise du décret par rapport au conseiller de communauté locale. Ne colle pas du décret du président de la République en se référant à l'ancienne constitution. C'est des choses qu'on doit corriger. Sinon, quelqu'un dit lui, mais c'était du décret du président. Et pourquoi aujourd'hui, c'est le premier ministre qui prend les décrets? Et pourquoi on pourrait dire que non, mais ça soit pris par ordonnance du président, par ordonnance du président. Voilà des décisions comme ça. C'est mieux qu'on arrive à éclairer directement les choses pour dire que par décret du premier ministre, on corrige ce qui est dans le code. Il y a aussi des dispositions contraires. Vous trouvez, des choses telles que l'exploitation artisanale. Lorsque vous lisez les codes, si vous voyez seulement qu'on pose des conditions, les communautés peuvent exploiter leurs forêts avec le concours des tiers. On ne va vraiment pas en détail. Et l'arrêté qui organise l'exploitation forestière en LDC, là aussi pose des problèmes, mais les gens disent qu'en soi, cet arrêté porte déjà une modification de l'application. Donc c'est comme ça que lorsque nous parlons de la révisitation du code, ce n'est pas seulement le code en soi, mais c'est une mesure d'application qui doit être pratique et facilitée sur l'application.
Oui, ben pour certaines personnes, c'était prévu dans le code de la création d'un cadastre forestier au niveau de l'administration centrale et provinciale chargée des forêts. Il était également prévu la création d'un fonds forestier national, ce qui a été fait, la création d'un conseil consultatif aussi, donc, et des conseils consultatifs provinciaux. Où en est-on?
Oui, par rapport au projet, je commence par les conseils consultatifs. Aujourd'hui, on est en train de discuter pour la mise en place du conseil consultatif national des forêts, mais quant au conseil consultatif provincial, il y a déjà le conseil, trois provinces qui sont dotées de conseils consultatifs, l'Équateur, le Bandundu et la province orientale. Et là, c'est ok, ça fonctionne, mais pour les autres provinces, pas encore. Notamment, les autres institutions qui ont été promis dans le code, oui, ils sont mis en application, ils sont là, on a créé le fonds forestier national. Mais il se pose le problème, par exemple, la société civile, sur le plan aujourd'hui, ne veut pas être partie prenante
dans
les organes de décision du Conseil du Fonds forestier national.
Donc, ce n'est pas exceptionnel, la société civile ne fait pas partie. Donc là, il faudrait quand même qu'on puisse revoir. Donc, c'est à ce niveau-là que vous avez constaté la faiblesse.
Oui, donc, c'est comme ça que j'ai dit qu'il y a certaines faiblesses dans les textes qu'il faut corriger. Mais aussi, je donne aussi le sens, c'est que le code aujourd'hui, il est bon. Bon, on ne veut pas toujours modifier, mais l'effort à faire, c'est que les dispositions soient d'application. Et là, nous souffrons aussi, nous connaissons aussi de faiblesses en matière d'application de toutes les dispositions de la loi et de certaines mesures d'application.
081-893-15 pour votre intervention en direct et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Chaque jour, la fréquence de la PMI Le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des Grands Lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous entamons la deuxième demi-heure de cette émission. Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, Richard à Kinshasa. Bonjour Maître Adrien.
Oui, bonjour J.R. Rungembo, bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole, vous avez suivi vos prédécesseurs. Quel est votre point de vue? Quelle lecture faites-vous par rapport à ces plaidoyers de la société civile?
Oui, je pense que je commence par saluer donc le plaidoyer de la société civile, bien qu'il intervient tardivement, parce que rappelez-vous, hier, que je suis parmi ceux-là qui demandaient à corps et à cri pour qu'on puisse révisiter le code forestier. Peut-être ceux-là qui disent qu'il est bon, donc ils demandent seulement qu'il soit appliqué, ce sont des gens peut-être qui s'en tiennent dans leur bureau climatisé, mais nous qui avions la chance de circuler dans l'arrière-pays, et nous vous disons tout de suite que la première faiblesse de ce code forestier, c'est quoi? Un code qui enrichit davantage les investisseurs au détriment de la population. Donc, c'est comme qui dirait, les investisseurs s'enrichissent davantage et la population s'appauvrit davantage. Donc, là, c'est inacceptable. Et puis, deuxièmement, lorsque vous lisez le code forestier, moi, je me suis dit, à partir de la promulgation déjà de la Constitution du 18 février 2006, on devrait déjà réactualiser les codes forestiers parce qu'il y a certaines discriminations qui logent dans les codes forestiers. Lorsque vous prenez par exemple un non-autochtone ne peut pas avoir un droit au chapitre dans une forêt quelque part. Donc vous trouvez que si vous n'êtes pas originaire de ce point-là, lorsque vous veniez, il y a une procédure longue pour avoir un espace, pour avoir un droit de cultiver quelque part. Et puis, troisièmement, lorsque vous lisez le code forestier, vous allez vous rendre compte que c'est un code qui limite un certain pouvoir aux investisseurs. Lorsque un investisseur arrive quelque part, je prends le cas parce que j'étais à Ilebo, comme je vous ai toujours dit, lorsque vous descendez vers Mapangu, au niveau de la limite entre Bandundu et Kasai occidental, du côté Katembo, vous allez vous rendre compte que qu'est-ce que nous avons constaté? Les codes donnent le pouvoir aux investisseurs lorsqu'ils exploitent une forêt quelque part. Donc, ces investisseurs-là ont le droit de diriger soit une école ou bien une maternité et c'est fini. Or, lorsque vous entrez maintenant, vous voyez le bénéfice récolté par ces investisseurs, vous n'en avez pas idée. Donc, nous estimons que le code forestier doit être donc adapté à la réalité actuelle congolaise.
Oui, Maître Adria, le contexte dans lequel on a élaboré ces codes qui est encore en vigueur, pousse quand même les gens à s'interroger sur certaines questions, d'autant plus que on a dit que en fait le secteur forestier n'avait pas suscité donc beaucoup d'intérêt auprès des décideurs politiques à l'époque, ce qui a fait qu'il y a eu moins d'investissements dans les secteurs et en conclusion il y a eu aussi pas beaucoup d'entrées financières par rapport à des retombées dans l'amélioration de sociale de la population riveraine, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est vrai il faut qu'on puisse revisiter ces codes pour être un peu attentif, être regardant par rapport à aux réalités et par rapport à toutes les dispositions afin de permettre à ce que on puisse attirer pas mal d'investisseurs dans le secteur, question de pouvoir aussi aider la population à se retrouver.
Exactement, Gérard. Je suis tout à fait d'accord avec ceux-là qui résonnent de cette manière, parce que lorsque nous prenons d'autres pays, les domaines forestiers, c'est un domaine exagérément très riche lorsque on sait vraiment le gérer et la population se retrouve et voire même le gouvernement tout entier. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas un œil très regardant par rapport à ces domaines, mais au jour d'aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les quelques rares investisseurs qui se sont lancés dans ces domaines, ils sont très, très riches. C'est pour cela, moi je pense qu'il y a des fois maintenant qu'on puisse ouvrir l'œil et les bons pour qu'on puisse maintenant réagir tant à fait le plus rapidement possible. Donc, je soutiens à 100% le plaidoyer de la société civile.
Merci beaucoup, Maître Adria. Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous ceux qui ont parlé et félicitations pour l'argument que je m'approprie. Alors, pour moi je dis, la forêt de la RD Congo, la deuxième après l'Amazonie, ne profite pas aux Congolais comme l'or, le diamant, le coltan, etc. du Congo. La preuve, c'est tout le monde a parlé contre ce code. Ce code, c'est un code qui va nous faire insulter demain, comme l'or et le diamant, etc., l'ont fait, lorsque nous savons qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des cités qu'on appelle le Congo Soba. C'est l'histoire de l'Ouest africain qui ont ramassé l'or et le diamant ici et ils se sont enrichis. Comment vous pouvez expliquer que ce code n'enrichit pas le Congolais, comme le diamant de Mbujimayi qui n'enrichit pas localement ceux qui sont en Mbujimayi,
C'est là où on trouve aussi le taux le plus élevé de malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc, la gestion de cette richesse échappe aux Congolais. Et nous posons la question, pour qui on roule, pour qui les dirigeants congolais roulent en élaborant des documents comme ce code-là? Pour qui? C'est ça le grand problème. Je demande aussi à ceux qui ont introduit ce recours, donc ce plaidoyer, de nous donner le bilan. Comme j'ai suivi le week-end, le président Ali Bongo, que je salue, il a donné le bilan de la gestion de sa forêt. C'est élogieux. Ça me pousse à me déplacer, à aller vivre là-bas pour bénéficier de cette forêt. Et chez nous ici, on bénéficie de quoi? C'est poignant. C'est douloureux. Félicitations à ceux qui remuent les terres pour que ce code-là profite aux Congolais, même lorsqu'il est appelé, nous sommes appelés à leur foi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Richard. On va retourner de l'autre côté de notre invité, Jean-Marie. Si on peut faire quand même un petit bilan, un bilan de nos forêts.
Le bilan de nos forêts.
La gestion de nos forêts.
Je ne sais pas dans quel contexte nous devons citer ce bilan.
Richard a parlé de bilan de la gestion de nos forêts.
Bilan de la gestion de nos forêts, c'est comme je l'ai dit, le problème moteur que nous avons, c'est un problème d'application. Le code de l'île, certainement qu'il a des faiblesses qu'on doit corriger à travers cette révisitation que nous souhaitons. Mais, même avec le nouveau code qu'on pourrait avoir demain, si on n'arrive pas à avoir une administration très forte qui applique les lois telles que se doit, les gens vont continuer toujours à se plaindre. Je prends un exemple. Il est dit aujourd'hui, par exemple, le code dit aujourd'hui, pour une université qui arrive en RDC et qui se lance dans l'exploitation de bois, ils ne peuvent pas commencer à exporter les grumes avant qu'ils n'aient 10 ans d'expérience d'exploitation dans notre pays. Et c'est lorsqu'il aura atteint entre 7 ou 10 ans, qu'il pourra alors avoir l'autorisation d'exporter 30% des bois sous forme de grumes, mais le reste sera scié. Et malheureusement, aujourd'hui, on voit un Chinois qui arrive, le lendemain, il sort de bois, il commence à exporter des grumes. Et pratiquement toute sa production est exportée sous forme de grumes. Et c'est juste que même les unités de transformation qu'on a observées dans les temps, partout ailleurs, dans chaque district, dans certains territoires, aujourd'hui, je prends le cas du territoire d'Ishui, un territoire de l'Ubangongo, dans le district de Maïndombe, qui compte 10 concessions forestières, mais qui n'a même pas un seul dépôt de bois dans la cité, sauf le territoire.
Alors quel est le travail qui est fait par le réseau aujourd'hui, votre réseau, pour encadrer les exploitants artisanaux, par exemple?
Pour encadrer les exploitants artisanaux, nous avons pensé d'abord réfléchir avec eux sur les dispositions de l'article 035 qui pose certains principes qui encadrent cette exploitation. Et pour cela, nous avions organisé en décembre 2013 deux conférences, des activités que nous avons appelées conférences provinciales à Matadi et à Bandundouville. Et cela a abouti à déposer sur la table du secrétaire général du ministère de l'Environnement une proposition d'un arrêté qui organise spécifiquement l'exploitation artisanale. Et en attendant que nous puissions avoir cet arrêté-là, nous sommes en train maintenant avec quelques organisations membres du travail à l'identification des opérateurs qui opèrent dans ce secteur artisanal, notamment dans le Bandundu, à l'Équateur, dans le Bandundu avec l'ONGDI, à Bandundu avec l'ONGH et avec toute une bourse internationale, membre du réseau bien sûr, mais qui est un acteur important, particulièrement dans le secteur, qui travaille aussi à l'identification des opérateurs dans ce secteur. Et on ne se limite pas seulement à l'identification, mais aussi à l'accompagnement pour qu'ils comprennent un peu les dispositions actuelles de l'ARDT, et voir comment on peut harmoniser certaines choses avec l'administration pour que ces opérateurs puissent se conformer à ces dispositions.
Voilà, on va accorder encore la parole à Rossignol, qui est à Kinshasa. Rossignol, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, c'est JR. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Voilà, Rossignol, vous êtes à Kikwit. Quel est votre point de vue?
Oui, vraiment, je suis plaidoyer sur la pluie et tout ce qui remercie les derniers intervenants. Vraiment, tout ce qui a dit, je n'ai pas fait vibrer mon cœur. De toute façon, je comporte à Dieu nécessité fait une réforme visant à faciliter la grande partie de
Voilà, on a des petits soucis, hein. Vous sortez un très coupé, Rossignol. Pour nous permettre d'avoir quand même une communication très fluide, est-ce que vous pouvez pas vous déplacer un tout petit peu? En attendant, nous prenons Anelka, ici, et puis on va revenir à vous. Anelka, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, la radio Capitaine.
Oui, vous avez la parole, Anelka.
Oui. Mon intervention est excuse. Les textes. Déjà là, ils ont...
Décidément, on a des petits soucis avec et la ligne de Rossignol et la ligne de Anelka. Rossignol, vous êtes encore avec nous?
Oui, oui.
Bon, allez-y.
Je salue les employés de la société civile qui a pris les côtes à mer. Les côtes sont laissées à Dieu nécessiter d'une réforme pour favoriser la grande partie des revenus. C'est la réponse de l'automne. Puisque c'est quelqu'un comme tout autre Congolais qui est marqué que ça progène des ressources abondantes qu'on exporte partout à l'étranger et qui est en train de devenir. À qui, par exemple, aujourd'hui, c'était une ville qui se trouvait en pleine forêt dont la température ne dépasse pas 25 degrés malgré le fait de se faire du réchauffement climatique. Mais aujourd'hui, la ville a pu s'aligner dans une savane surprise. Comparable à.
Voilà, on est obligé de vous interrompre, Rossignol, parce que c'est vraiment de la mauvaise qualité. Nous ne pouvons pas vous garder le plus longtemps possible hein, sur les ondes. Question de respecter les auditeurs qui vous suivent, parce que là, finalement, personne ne comprend. Mais j'ai retenu simplement que aujourd'hui la ville de Kikwit s'est transformée. Hier, c'était la forêt, aujourd'hui, c'est toute une savane. Merci beaucoup, Rossignol, à Nelka. Emmanuel Amayo, d'Isiro, nous avait écrit, hein, on aurait bien voulu et souhaité d'ailleurs que vous puissiez intervenir vraiment à Londres, mais vous avez dit, la société civile a raison, mais ma crainte est bien qu'elles pourront obtenir cette faveur que la loi soit adoptée à la Constitution, adaptée à la Constitution. Les grands problèmes, c'est aussi donc l'application de ces lois. C'est vrai, on peut obtenir, si jamais il n'y a pas de mesure d'application, tout sera voué à l'échec. Mutamba Njibu, top PBA de Kalemi, est-ce que les élections, ben voilà, donc, c'est du coq-à-l'âne. Nous revenons à vous, notre invité, donc, par rapport à cette thématique, pour éclairer la lanterne des uns et des autres, par rapport aux principales réformes que vous proposez dans le cadre de la réforme, de la révision du code forestier qui interviendra donc prochainement par rapport à votre plaidoyer. Et nous demandons à tous les auditeurs qui nous rejoignent, donc ils peuvent composer les 081-890-6315 pour leur intervention en direct.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capit vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapit.net.
Voilà, Jean-Marie, vous êtes avec nous en ligne en tant que notre invité. Il y a quand même une autre préoccupation de certains observateurs par rapport à la catégorisation ou à la classification nos forêts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de la gestion, il faut tenir compte aussi de cette classification parce qu'il y a des forêts classées, il y a des forêts protégées et des forêts de production permanente parce que la gestion n'est pas, j'imagine, selon les codes, la même.
Le forestier a regroupé nos forêts en trois catégories. Et nous avons d'abord toutes les forêts telles qu'elles sont là, ce sont des forêts protégées. Et ce sont des forêts, quand vous êtes au village, il y a des gens qui disent que ça, cette partie c'est notre forêt, cette partie c'est notre forêt. Donc, les forêts protégées sont des forêts, c'est l'ensemble de forêts qui appartiennent aux différents groupements, aux différentes tribus qui en gèrent selon leur coutume. Et de ces forêts-là, l'État peut décider, comme vous savez, le code forestier de 15% du territoire national, c'est 15 ou 17% du territoire national sera consacré aux aires protégées. Mmh. Alors, toutes ces forêts qui constituent des aires protégées, des parcs, des réserves, des ceci, constituent des forêts classées. Et dans les forêts classées, les collectivités locales ont ce que nous appelons les droits d'usage.
Et c'est droit d'usage aussi, chaque plan d'aménagement, pour chaque aire protégée doit avoir un plan d'aménagement. Et le plan d'aménagement aussi spécifie aussi ce que les communautés peuvent aller récolter dans cette forêt-là. C'est ça qu'on appelle le droit d'usage. Et en fait, nous avons les forêts de production permanente, ce sont des parties de forêt qui sont affectées à l'exploitation. Où on a des concessions de production, des concessions forestières, où on a des concessions de conservation. Et là aussi, les communautés ont le droit d'usage dans ces forêts-là. Et cela aussi est spécifié dans le plan d'aménagement de chaque concession. Mais ce que nous savons, que les restes de forêts qui ne sont ni forêts classées, ni forêts protégées, ce sont des forêts qui servent aux communautés pour les services. Là, nous voyons, il y a des communautés qui vivent et dépendent de forêts. Donc, ce sont des communautés qui vivent dans les forêts ou autour des forêts que nous considérons protégées. Et c'est là où nous trouvons des forêts qui appartiennent aux communautés en vertu de leurs coutumes.
En vertu de leurs coutumes. Ou encore des traditions locales pour permettre à ce que la population puisse survivre. Merci beaucoup. Jean-Marie, nous vous gardons toujours en ligne. Il est temps de prendre Jean des Dieux qui est à Kikwit. Jean des Dieux, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Marie, bonjour à notre invité.
Vous avez la parole, Jean des Dieux.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. L'émission est extrêmement importante. Mais il y a vraiment à faire pour ce qui concerne les aires protégées des forêts. Sur le code des forêts où l'invité vient de dire, il n'y a pas vraiment de suivi. C'est plus les importateurs qui exploitent nos forêts par rapport à nous qui sont les propriétaires. Ils viennent de leur machine là. Vous voyez, le maître d'œuvre local est différent avec leur maître d'œuvre qui vient de l'extérieur du pays. Il vient des machines, vraiment des lourdes machines qui exploitent et qui paient pour forester les forêts dans une semaine quand vous venez, c'est les savanes qui se voient. Et parce que toutes les choses qu'ils ont fait de faire. Vous voyez, on est en train de déplorer le problème du climat. Et demain, nous commencerons à souffrir. Il y a de fortes températures parce qu'il n'y a pas de forêt qui couvre quand même l'étendue du pays. On est en train de déforester cela abusivement. Et ce que moi je dirais aussi à notre invité est de ce que par rapport à l'air code-là de protection de l'air, de la forêt, qu'il y a quand même d'autres méthodes où ils doivent quand même faire pour taxer surtout les importations des ex-patriés qui viennent exploiter et leur aussi donner des conditions afin que nous puissions quand même récupérer. Parce que tout ce qu'on est en train de donner comme droit, c'est dans des poches de d'autres individus où le Congolais n'en profite pas, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, c'est ça ma contribution.
Merci beaucoup, Jean Bédié, d'avoir contribué dans cet échange citoyen. Boni, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez
monsieur le journaliste. Et de la radio Capi. Je suis content d'intervenir directement sur cette émission. Et je disais ceci, monsieur, pour la gestion de nos forêts, je sais qu'il y a beaucoup de pays qui vivent seulement de leur forêt. Alors, ce que je pourrais proposer, qu'on fasse des lois. Par exemple, au lieu que les exploitants puissent payer les taxes, qu'ils puissent seulement investir là où ils exploitent. Vous voyez, si l'argent qui devrait passer dans la poche de tel monsieur, tel autre, le monsieur n'aura pas l'argent, mais quelque part, un développement se fera voir. Voilà comment moi je vois les choses. Parce que quand nous disons que ce pays est riche, la plus grande richesse que nous avons, c'est la forêt. Et c'est cette richesse qu'on ne peut pas nous ravir. Parce que évidemment, va se terminer, les cuivres vont se terminer, mais la forêt est là. Et nous pouvons devenir même le plus grand producteur de n'importe quelle main, quelle nourriture. C'est vraiment une honte que la RDC puisse importer le riz, importer les haïs et autres. Et pourtant, nous devons le produire. Moi, je pense que ce que nous devons faire, il faut que chaque exploitant, c'est-à-dire qu'il soit de quelque nationalité que la société, il doit investir là où il exploite, c'est-à-dire créer. Créer des écoles, créer des infrastructures sanitaires, créer le magasin comme on le faisait autrefois, de telle manière qu'avec des infrastructures pareilles, tous ceux qui sont à l'intérieur,
ils ne viendront plus dans les grandes villes pour faire les autres grandes. Mais au contraire, ceux qui n'ont pas de travail au niveau des grandes villes rentreront dans l'arrière-pays pour aller travailler. Moi, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Monsieur journaliste.
Voilà. Est-ce que vous pensez, parce que vous l'avez dit, le secteur forestier est susceptible de contribuer quand même de manière significative dans l'économie nationale? Alors, pour vous, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Pour quelles raisons, concrètement, pour vous?
Monsieur journaliste, le problème, c'est que les lois existent, les instructions existent, le règlement existe, mais c'est l'application.
L'application.
Les deux applications. Le Congolais, qui a une petite parcelle de pouvoir dans ce domaine, pouvait gérer la forêt de la bonne manière. Je pense que de la forêt, il peut venir même 30 ou 40 pourcentage de.
De contribuer à l'économie
nationale. Parce qu'il y a des pays comme le Brésil. Leur forêt, leur donne beaucoup de choses. Les Congolais peuvent le faire. C'est un problème d'appliquer la loi seulement, monsieur. Dans ce pays, la grande maladie, c'est que les instructions sont là, elles sont très bonnes. Les lois sont là, elles sont très bonnes.
Mais elle
il doit appliquer. C'est comme je le disais, le problème du Congolais aujourd'hui, c'est la conscience. Développer ce pays à partir de la forêt, c'est possible.
Merci beaucoup, monsieur Boni, d'avoir appelé de Kinshasa. On va rester dans la ville-province de Kinshasa avec Justin. Vous êtes le dernier auditeur que nous recevons, nous accueillons donc dans cette en onde. Voilà, Justin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, monsieur Hier.
Vous avez la parole, Justin.
Oui, merci beaucoup. Avant toute chose, moi je voudrais d'abord rentrer un peu en arrière par rapport au débat du jour. Hein.
Oui, allez-y.
S'il faut remonter dans l'histoire, vous savez que le secteur forestier n'a pas connu vraiment une législation très forte ou abondante. Le premier texte qui régit, au fait, qui a régi le secteur remonte à 1949. Ce n'est qu'en 2002 qu'on a en fait rédigé le code forestier. Sur ce point de vue, vous êtes sans ignorer, monsieur Hier, le contour en fait de l'élaboration de ce code, que ce soit le code forestier, le code minier, en fait, ces deux codes ont été élaborés dans un contexte un peu particulier, d'autant plus que le pouvoir actuel venait d'accéder aux commandes de la chose publique, mais aussi le pouvoir qui avait précédé n'avait pas vraiment, ne s'était pas investi dans ce secteur comme il le faut. Alors par rapport s'il faut parler en termes de révision, je suis d'accord avec la société civile. Mais à quelques perceptions près, je dis que ce code vraiment, pour parler de sa révision, on doit prendre en compte beaucoup de paramètres. On doit parler de la révision du code forestier sans parler, par exemple, de la révision du code minier, mais aussi de la loi foncière de 1963, où on trouve, par exemple, certaines dispositions qui se contredisent entre elles.
Voilà, merci beaucoup Justin, nous revenons à vous Jean-Marie, juste un dernier mot hein, pour conclure, donc aujourd'hui avec ce plaidoyer, quelles sont les démarches qui vont suivre juste après que cette démarche ou cette demande a été exprimée clairement au ministre de l'Environnement, quelle sera la suite?
Oui, la suite, nous au niveau de la société civile, on continue la réflexion pour essayer de d'analyser toutes les faiblesses que nous constatons dans les causes et dans les différentes mesures d'application, et aussi en train de travailler, de voir comment arriver les différents services concernés à assurer une très bonne coordination pour que les réformes dans les différents secteurs, que ce soit le secteur de forêt, des hydrocarbures et des mines, puissent voir comment harmoniser certaines dispositions. Et de mon venu, nous allons soumettre nos propositions aux autorités compétentes et entamer les discussions. Et je voudrais, avant de terminer, porter un peu la lumière à vos amis, à certains collègues qui ont parlé de mesures de protection. Je voudrais rassurer que le pays dispose depuis 2011, depuis juillet 2011, d'une loi, la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Et là-dedans, on a posé beaucoup de principes pour la protection de l'environnement, mais le code en soi, dans le code, nous avons des dispositions qui protègent le patrimoine forestier national. Il est par exemple interdit de couper le long des cours d'eau à moins de 100 mètres de sources d'eau, à moins de 100 mètres le long des rivières, interdit de couper dans les lieux marécageux. Et malheureusement, aujourd'hui, quand vous avez le quartier, tous les phareaux, les bons phareaux qui arrivent par flottage au fleuve, sont coupés le long du fleuve. Ici, à Yousse, à Maluku, parce qu'il y a aussi l'exploitation forestière à Maluku, on fait des abattages. Le bois avec lequel on fabrique les allumettes, c'est le type à Yousse, il est coupé ici à Mangata, dans les marécages. Donc, ayant un problème, même si on va avancer dans la réforme, mais il y a aussi un grand travail que nous devons faire pour la sensibilisation et la visualisation des instruments que nous avons déjà.
Est-ce que vous avez une idée sur l'investissement dans les secteurs? Est-ce qu'il est vraiment significatif à ces jours?
Aujourd'hui, à ces jours, nous connaissons, parce qu'avec la révision, la conversion des titres, vous savez, au départ, nous avions 156 titres qui ont été soumis à la conversion. Vous dites que ceux qui avaient détenu. Avant le code forestier, nous avions deux titres. Les garanties d'approvisionnement en électrique d'intention. Avec le nouveau code qui sort comme titre forestier valable pour l'exploitation forestière industrielle, le contrat de concession forestière, c'est comme ça, de concession forestière plutôt, c'est comme ça qu'on avait demandé aux sociétés détentaires de l'autorisation de garantie d'approvisionnement, qui souhaitent continuer l'exploitation comme c'est un RDC, devraient soumettre leur demande au ministère, et à l'issue de ce processus, 80 concessions ont été converties. Du moins, jugées convertibles. Aujourd'hui, de 80 concessions, il y a des concessions qui, après analyse toutes les exigences de la loi, ce qu'on a dit, il faut qu'on arrive à voir de quoi se faire des cahiers des charges pour permettre aux investisseurs d'intervenir, pour faciliter certains investissements directement dans les communautés autour desquelles on est en train d'exploiter. Et certaines sociétés ont commencé à remettre leurs concessions dans le domaine public.
Voilà, Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également à tous ceux-là qui ont accepté de contribuer dans cet échange, citoyens partout où vous êtes, au pays et à l'étranger. Merci beaucoup à Dédoné Nyangasa qui a assuré la mise en œuvre de ce programme réalisé par Piero Elameji et Julie Fezabongonda, coordonné et présenté par J.R. Lungebo, sous la supervision de Léonard Moulamba. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro.